Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance sur l'océan et le climat. Cette semaine, en fait, je vais continuer à vous parler en fait, de la circulation océanique. On va avoir plus de détails en fait, à la fois sur l'actuel et sur ce qui s'est passé pendant cette transition post-glaciaire. Alors, tout à fait en préambule en fait, du cours de cette année, je vous avais montré des peintures pariétales de Lascaux, que vous connaissez tous, Chauvet et autres, pour vous illustrer en fait la sévérité du climat glaciaire et du climat aussi pendant cette transition. Donc, comme j'y étais cette semaine, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des photos ici de Chauvet, parce qu'en fait, avec mon équipe, on va travailler en fait sur certains aspects analytiques, et donc j'y étais en début de semaine. Donc vous avez, encore une fois, pour illustrer ceci avec des animaux adaptés au froid, vous avez ici quelques représentations. Un cerf mégacéros tout à fait typique avec sa bosse. Ici, des rennes avec des cervidés aussi en dessous. Un rhinocéros laineux. Et puis, une grotte qui est jonchée en fait, d'ossements d'ours. Ici, deux crânes d'ours, une mandibule. Donc, c'est des choses que vous avez déjà vues abondamment. Sur Internet, vous pourrez voir de très nombreuses photos bien meilleures que celles-ci. Je les aime bien, je viens de les prendre, et en même temps, elles sont, avec leur faible éclairage, elles sont plus représentatives en fait, de ce que voyait l'homme préhistorique à l'époque. Voilà, une illustration, enfin, toutes ces peintures pariétales, représentations sur les grottes ornées en France et ailleurs, sont vraiment illustratives, montrent en fait cette sévérité du climat. Et encore une fois, pour aller plus avant, pour faire de la paléoclimatologie, on était obligé de travailler avec des indicateurs qui sont moins impressionnants, mais beaucoup plus quantitatifs. Alors, la semaine dernière, j'ai abondamment parlé de la circulation thermohaline ou circulation méridienne de retournement, à la fois pour les bases et en même temps pour les variations récentes. Et j'en ai parlé et je vais y revenir cette semaine. Ce que j'aimerais signaler, en fait, c'est qu'en juin, comme à l'habitude, en fait, je vais organiser mon séminaire sous la forme d'un colloque de séminaire qui va être dédié justement à ces problèmes récents de variation en fait, de la circulation thermohaline ou circulation méridienne de retournement. Donc le colloque sera en anglais, avec des intervenants qui sont internationaux, à la fois français et évidemment aussi venant d'autres pays, ce qui fait que bon, pour les besoins de la communication entre les différents partenaires et aussi pour attirer une communauté de chercheurs spécialisés. Mais encore une fois, le mandat est aussi de faire des communications tout à fait abordables aussi pour les bases. Et donc, on verra à la fois les aspects de mesures actuelles, de mesures dans le passé, de cette circulation de méridienne de retournement, et cette modélisation et aussi les projections futures de cette circulation et de son impact sur le climat. Bon, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je vous ai dit en particulier que, eh bien, on pouvait la représenter à l'échelle de l'océan mondial. Il y a une difficulté en fait de la représentation de façon simplifiée, imagée, de cette AMOC hein, ou de cette circulation, cette MOC ou MOC, Meridional Overturning Circulation ou circulation thermohaline. Encore une fois, les deux termes sont pas très heureux parce qu'elle est à la fois ni méridienne ni complètement et uniquement liée à la température et à la salinité, donc elle n'est pas complètement thermohaline dans ses mécanismes, mais encore une fois, quelque chose qui peut être simplifié sous la forme d'une circulation à très grande échelle, à l'échelle de l'océan mondial, qui connecte en fait les couches de surface avec les couches profondes, c'est aussi via ce phénomène de circulation méridienne de retournement qu'il y a ventilation, oxygénation, je vous ai montré ça aussi, de l'océan profond. Donc des représentations qui peuvent différer. Je vous ai aussi signalé, et ça c'était aussi un des points importants, parce que c'est pour cela qu'on va la considérer dans la suite du cours et dans le cours précédent, cette circulation thermohaline, elle a aussi un rôle thermique dans la machine thermique planétaire. Elle transporte en fait beaucoup de chaleur, notamment au niveau de l'Atlantique. On avait vu que du sud vers le nord, elle transportait un pétawatt en permanence, et que ce pétawatt, donc 10 puissance 15 watts, eh bien, si on freine ou si on diminue cette circulation, eh bien, ça a un impact sur les températures au-dessus de l'Atlantique et sur tous les continents environnants, notamment sur l'Europe. C'est bien évidemment aussi vrai pour l'atmosphère. Alors, je vous ai aussi brièvement mentionné le fait que, depuis plus d'une décennie, les océanographes ont instrumenté, ont mis des outils, des capteurs, des courantomètres, des lignes de mouillage pour mesurer, en fait, essayer de mesurer ce courant qui est diffus. Donc, c'est très difficile. En fait, il faut effectivement avoir une base de données avec une section transversale de l'océan Atlantique. Je vous ai parlé de la section la plus ancienne qui est située à 26 degrés nord et qui barre, entre guillemets, la route de cette amoc. Et on a vu que, apparemment, les données montraient une petite diminution. Il y a encore des débats sur la détection, en fait, d'un changement de la circulation pendant cette période, avec une diminution, mais encore une fois aussi une variabilité interannuelle très importante, ce qui fait qu'il y a encore des débats pour savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou si on est déjà dans une influence anthropique. Parce que, encore une fois, le réchauffement des masses d'eau de surface ainsi que les changements de l'hydrologie, j'ai rappelé la semaine dernière le fait qu'il y a évidence, en fait, depuis des décennies, de changements de l'hydrologie, en particulier de la salinité. On a une intensification du cycle hydrologique, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la salinité intertropicale, en particulier pour l'Atlantique, avec une baisse de la salinité à haute latitude, donc un transport d'eau. Et donc ça a tendance à diluer et donc à changer les densités de l'eau de mer. Et les zones de convection, en fait, au nord de l'Atlantique, sont effectivement très sensibles à ces changements de densité. Donc on est les océanographes actualistes sont dédiés effectivement une grande partie de leur effort pour essayer de comprendre, de documenter des changements. Parce qu'on s'attend effectivement à avoir des changements de cette circulation méridienne. Je vous ai aussi dit qu'il y a un autre transect qui a été organisé, qui est situé un peu plus au nord, qui lui, apparemment, pour les derniers presque 10 ans, ou 5 ou 7 ans ici, ne montre pas en fait de changement. Ici, il s'agit d'un transect qui barre en fait la mer du Labrador ainsi que une zone atlantique située beaucoup plus au nord que 26 nord. Donc pour l'instant, il y a encore des débats. On attend, effectivement, il faut avoir une série temporelle beaucoup plus longue pour voir les tendances à laquelle on peut s'attendre à cause de ces changements de l'hydrologie, de la température. Plus on réchauffe les masses d'eau de surface, plus la densité va diminuer, et donc moins il y aura plongé en profondeur, et bien évidemment, la baisse de la salinité va dans le même sens. Il faut aussi tenir compte du flux d'eau douce, en particulier du Groenland, qui a tendance à va fondre, comme vous le savez. Donc il y a plusieurs phénomènes en fait, qui se superposent et qui vont concourir justement à cette baisse de l'amoc, à cette baisse de la circulation thermohaline, mais encore une fois, qui est difficile à mesurer parce qu'il faut instrumenter, couvrir une large section en profondeur et spatiale de façon récurrente, et en particulier s'affranchir avec des séries longues des variations interannuelles ou interdécennales. C'est le même problème que pour la détection des changements de température ici ou là. Il faut des séries longues, malheureusement, et donc quelquefois, lorsque les séries instrumentales sont trop courtes, on a effectivement du mal à voir des variations qui sont systématiques. Alors, une façon de faire qui est très utile quand on n'a pas suffisamment de données, c'est aussi de voir ce qui se passe dans la modélisation, dans les modèles. Donc, je vous remontre à chaque fois cette planche, en fait, qui résume un petit peu les choses, où on a des modèles numériques qui représentent l'atmosphère, l'océan, quelquefois les calottes, de façon paramétrisée le cycle du carbone, la végétation, et toutes ces composantes numériques, tous ces modèles vont interagir les uns avec les autres et vont pouvoir être perturbés, en particulier lorsqu'on introduit des gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique. Donc c'est ce qui est fait dans le cadre de tous les exercices d'intercomparaison de modélisation que j'ai mentionnés dans les précédents cours. Et je vous ai donc ces modèles qui peuvent être forcés avec plus ou moins de gaz carbonique, parce que la perturbation future dépend effectivement des scénarios d'émission de gaz à effet de serre, et il y a des choses qui sont impondérables. On le voit on l'a vu avec le Covid, on a vu une baisse instantanée des flux de CO2, mais en même temps, c'est reparti de plus belle après la fin des confinements. On voit que l'utilisation des fuels fossiles, eh bien, elle peut être impactée par une guerre. Donc, il y a effectivement de grosses incertitudes en fait sur les émissions futures, même si à l'heure actuelle, il n'y a pas de baisse significative. Il n'y a que augmentation annuelle. Comme vous le savez. Alors, avec ces différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il est possible en fait de faire des calculs de température dans le futur et aussi de regarder quelle est l'influence de ces changements de température, et changements de précipitation sur la circulation océanique. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière abondamment de ce que l'on appelle le trou du réchauffement. C'est pas très poétique, en Atlantique Nord. Et en fait, il y a effectivement dans les données instrumentales, dans les données de mesure, on voit très nettement qu'il y a une zone que l'on retrouve ici. Là, il s'agit de modélisation, mais je vous ai montré ça avec les données de mesure pour les derniers 50 ans. Quelle que soit la façon dont on compile les données, on voit qu'il y a un minimum en fait, de réchauffement, voire un refroidissement dans cette zone de l'Atlantique Nord, située à l'ouest et au sud du Groenland. Donc une anomalie. Alors certains l'attribuent directement à un ralentissement de la circulation méridienne amoc. D'autres chercheurs sont beaucoup plus dubitatif en fait sur l'attribution à l'amoc directement. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, la nébulosité, des changements de flux de chaleur à la fois océaniques et atmosphériques. Et pour l'instant, il y a effectivement une controverse pour interpréter finement ce trou du réchauffement de l'Atlantique Nord actuel vu dans les données pour savoir quelle est la composante climatique qui le crée. Dans tous les cas de figure, tout le monde est d'accord, par contre, sur le fait qu'il s'agit d'un phénomène qui est anthropique. C'est-à-dire c'est effectivement le forçage anthropique, le réchauffement mondial depuis un siècle, qui a comme action et rétroaction une zone qui se réchauffe moins, voire qui ne se réchauffe pas du tout lorsqu'on regarde la tendance sur le siècle. Alors ce trou du réchauffement, eh bien, on peut essayer de le regarder dans le futur, et effectivement, pratiquement tous les modèles, lorsqu'on fait la moyenne, ici j'ai juste pris deux diagrammes en fait, tirés du dernier rapport du GIEC qui vient d'être compilé, donc encore une fois des intercomparaisons de modélisation avec des dizaines de groupes de modélisation de par le monde qui utilisent exactement les mêmes scénarios de gaz à effet de serre dans leur modèle, et tout le monde est à peu près d'accord. Donc on retrouve l'amplification polaire, on retrouve l'amplification du réchauffement sur les continents, et on retrouve à chaque fois une bulle qui peut être soit plus froide, soit qui se réchauffe moins. Ici, c'est deux scénarios, un scénario optimiste et un scénario pessimiste, on va dire, pour les émissions, mais dans tous les cas, il y a effectivement un effet qui est indéniable et qui va perdurer dans le futur, qui existe dans les données et qui a toute chance de continuer. Alors, est-ce que c'est lié uniquement à une baisse de la circulation amoc ou pas ? Donc, il y a encore débat, mais ce qui est indéniable, c'est que lorsque l'on regarde, parce que tous ces modèles, en fait, sont des modèles couplés atmosphère-océan, ont effectivement, enfin, calculent de façon détaillée des rétroactions sur ce cycle hydrologique, et donc on a accès à des variations de la circulation amoc, de la circulation thermohaline. Ici, vous avez une compilation encore tirée du dernier rapport du GIEC qui montre en fait les simulations des différents modèles avec différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont symbolisés par les différentes couleurs. Ce qui est représenté ici, c'est d'une part les simulations rétrospectives pour le dernier siècle avec une variabilité de la circulation AMOC dans ces différents modèles. Alors ici, il s'agit d'anomalies. En fait, les différents modèles ne sont pas toujours d'accord sur le flux total. Il y a certains modèles qui font 15 sphères drop. Enfin, je vous ai dit que cette circulation, en gros, était équivalente à 15 millions de mètres cubes par seconde, 15 ou 20. Mais encore une fois, on peut effectivement comparer les différentes baisses en exprimant ceci en termes d'anomalies. C'est ce qui a été fait sur ce diagramme pour comparer et faire des moyennes sur différents modèles. Mais en règle générale, les modèles montrent tous une baisse significative de la circulation AMOC avec une baisse de l'ordre de 5 sphères drop, comme vous le voyez ici, ce qui est tout à fait significatif. C'est carrément le tiers ou le quart de cette circulation. Donc ça a forcément un impact si on a 1 pétawatt transporté en permanence. Mais si on diminue ça d'un tiers ou d'un quart, ça a forcément un impact très important sur l'atmosphère autour de l'Atlantique Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une variabilité. Cette variabilité, ces barres d'erreur ici, enfin, ces incertitudes sont liées à la variabilité entre les différentes modélisations. Mais en règle générale, les modèles sont d'accord sur le fait qu'on va vers une diminution de cette circulation AMOC dans le futur, en lien avec les perturbations climatiques et hydrologiques en Atlantique Nord et qui ont une répercussion sur le climat de la Terre. Alors ça fait en fait assez longtemps, et là il s'agit en fait de modèles, les modèles les plus compliqués, des modèles GCM couplant océan, atmosphère de façon détaillée, avec des composantes de banquises et autres. Ça fait en fait assez longtemps que des modèles un peu plus simples sont utilisés pour regarder ces fluctuations en fait de l'AMOC dans le futur, en particulier en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Ici, je vous montre une vue tirée d'un travail qui est plus ancien, qui avait été réalisé avec des modèles, avec un modèle qui était beaucoup plus simple, un modèle simplifié de représentation de la circulation en deux dimensions et autres, donc qui permettait de faire des calculs beaucoup plus rapides à l'époque où il n'était pas encore possible d'avoir le même détail qu'actuellement. Et ce qui est représenté en fait sur ces diagrammes, c'est d'une part, de façon très simplifiée, les perturbations en termes de CO2, en termes de ppm. Ici, c'était absolument pas réaliste. Mais c'était des changements, des perturbations de ces modèles, de ce modèle bidimensionnel, avec des augmentations de gaz carbonique et puis ensuite une stabilisation dans le temps en fonction du temps qui évolue dans le calcul sur un siècle et avec une stabilisation du gaz carbonique. Mais encore une fois, quand même des changements qui sont réalistes, qui sont du même ordre de grandeur que ce qu'on attend. Mais le propos était en fait de regarder quelle était la sensibilité de la circulation AMOC dans le calcul, quelle était sa valeur en flux exprimée en sphère drop. Donc là, on démarrait avec une circulation normale avec 25 sphères drop, peu importe. Et ce que les auteurs avaient pu mettre en évidence, c'est que il y avait une sensibilité, on allait forcément vers un réchauffement avec une augmentation des précipitations, des flux des fleuves et fonte du Groenland. Tout cela a été paramétrisé de façon très simplifiée dans le modèle sous la forme d'un flux d'eau douce en fait en Atlantique Nord, et pour diminuer la densité des eaux de surface en Atlantique Nord. Et dans ce cas-là, suivant l'intensité, l'amplitude ou la rapidité du phénomène, on pouvait soit avoir quelque chose de transitoire, puisqu'on revenait, on allait vers une stabilisation imposée dans le calcul, ou carrément un effondrement. Il y avait deux cas. Il y avait lorsque la perturbation avait une ampleur trop importante ou trop rapide, système pouvait basculer vers une circulation océanique sans, finalement, AMOC, pratiquement, avec un flux voisin de zéro. Donc c'est quelque chose qui est, encore une fois, pour la, dans la plupart des cas, lorsque la perturbation était suffisamment lente ou suffisamment faible au point de vue amplitude, eh bien on avait un retour vers l'équilibre de cette circulation thermohaline. Alors c'est quelque chose qui a été, d'une part, beaucoup travaillé avec des modèles simples, et pendant très longtemps, ce comportement avait été attribué, justement, cet effondrement était attribué justement à la simplicité de ces modèles. Il y a beaucoup de groupes, en fait, de modélisation qui se sont intéressés, qui ont complexifié les modèles, et à l'heure actuelle, pratiquement tous les modèles, même les plus compliqués, montrent en fait suggèrent que le climat de la Terre, enfin, ou au moins ce qui est représenté dans ces modélisations, a finalement deux modes quasi stables. Un mode avec une circulation méridienne de retournement qui est intense, qui est celle que nous connaissons, et un mode qui peut arriver avec les mêmes conditions aux limites, avec les mêmes forçages, un mode carrément sans circulation. Et alors, ça a été étudié dans ces modèles de façon systématique en faisant des perturbations simplifiées des flux d'eau douce en Atlantique Nord. C'est ce qui est représenté sur un des diagrammes ici. Globalement, on a l'intensité, ce qui est représenté, c'est l'intensité en sphère drop de la circulation amoc, qui est directement corrélée avec la température en Atlantique Nord. Et on a une intensité qui va varier, qui va diminuer si l'on impose une perturbation hydrologique positive, donc un flux d'eau douce important en Atlantique Nord, qui va diminuer la densité et qui va ralentir et donc diminuer cette intensité exprimée en sphère drop, en millions de mètres cubes par seconde, de la circulation thermohaline, cette circulation. Donc le point vert ici représente le climat moderne. Ce qui était appliqué, c'est une perturbation positive, c'est-à-dire qu'on augmentait de façon artificielle dans ces modèles plus ou moins complexes. Alors, ces différents diagrammes, ça c'est un diagramme de principe, dans ces différents modèles, les plus simples ou les plus complexes, en fait, le comportement était un peu toujours le même, c'était un comportement d'hystérésis avec une perturbation hydrologique qui faisait diminuer la circulation thermohaline avec cet ajout d'eau douce en Atlantique Nord jusqu'à un certain point, un certain seuil où là le système s'effondre à partir d'un point de bascule ou un point de bifurcation en fait vers un état ou un mode qui n'a plus, pratiquement plus de circulation profonde ou une circulation beaucoup plus ralentie et donc ceci évidemment, a une très grosse influence sur la température, en particulier en Atlantique Nord, avec disparition quasiment de ce pétawatt qui est transporté en permanence par cette circulation. Donc un impact thermique qui est aussi très important, c'est ce que l'on voit dans ces modélisations. Donc pendant très longtemps, ces diagrammes d'hystérésis ont été étudiés de façon systématique. Bon, il faut faire beaucoup de calculs. Ça avait d'abord été étudié avec des modèles simplifiés, c'est ce qui est représenté ici. Ensuite, avec des modèles un peu plus sophistiqués qui couplent l'atmosphère et l'océan, mais tous, pratiquement, montraient une boucle d'hystérésis avec un phénomène de seuil et un effondrement. Un des points importants aussi était, c'est ce qui est représenté avec le rond. Le rond représente à chaque fois le climat moderne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, si on prend ce diagramme qui représentait une intercomparaison entre ces modélisations de la boucle d'hystérésis du flux de ici NADW, donc l'eau profonde nord-atlantique, bon, quasiment c'est directement l'intensité de l'amoc en sphère drop, encore une fois, en fonction de la perturbation d'eau douce en Atlantique Nord, le point ouvert là représente à chaque fois la localisation dans le modèle du climat moderne. Et ce qui est intéressant, c'est que suivant les calculs, bon encore une fois, les différents modèles n'étaient pas d'accord, sont pas d'accord sur l'intensité dans la modélisation de cette circulation amoc. Hein, vous voyez que ça varie notablement ici entre les différents modèles, mais surtout aussi que la distance par rapport au point de bifurcation du climat moderne variait. Par exemple, ce modèle-là suggère que la situation actuelle est très loin du point de bifurcation, alors que d'autres montraient une situation beaucoup plus critique, beaucoup plus proche en fait du point de basculement du climat moderne. Encore une fois, des comparaisons qui sont intéressantes, qui avaient été pour évoluer vers un mode sans circulation profonde. Encore une fois, une simplification dans les modèles et des choses qui sont imposées de façon tout à fait artificielle. Alors, ça, il a fallu attendre en fait quelques années, le début des années 2011, 2010 et autres, et ensuite ça a été reconfirmé par d'autres modèles, avant d'avoir vraiment un modèle complet, tridimensionnel, détaillé, GCM, couplant océan et atmosphère, pour montrer, en fait, parce que aussi il y a des limitations en temps de calcul, pour faire ce type d'exercice, il faut faire de très nombreux calculs pendant assez longtemps, et donc ça a attendu assez longtemps avant de montrer le même comportement dans un modèle 3D, dans les modèles typiques qui sont utilisés pour les projections climatiques futures. Donc, un premier modèle en 2011, et ensuite confirmation par d'autres exercices, avec ce comportement, avec boucle d'hystérésis, une circulation méridienne de retournement intense de l'ordre de 20 sphères drop, et un basculement possible lorsqu'il y a une perturbation qui, elle, est imposée dans la modélisation. C'est-à-dire que là, le calcul, il est réaliste pour le couplage océan-atmosphère, mais par contre, la perturbation qui permet de faire ces calculs d'hystérésis, eh bien, on impose de façon artificielle, c'est un forçage qui est imposé à la modélisation. Alors, ce qui est rassurant, quand même, c'est que pour l'instant, c'est un peu un des résumés sur cet aspect du dernier rapport du GIEC, c'est que même si tous les modèles montrent une diminution de la circulation méridienne de retournement AMOC ou circulation thermohaline dans le futur, de l'ordre de, on l'a vu en moyenne, de l'ordre de 5 sphères drop pour le prochain siècle, les modèles n'atteignent pas ces points de bifurcation. Donc c'est heureux. C'est rassurant, mais encore une fois, il y a encore beaucoup de débats sur l'aspect plus ou moins réaliste. En particulier, ces modèles ne simulent pas de façon systématique les couplages avec la calotte groenlandaise, de façon interactive, véritablement, ou avec l'Antarctique. Donc il y a encore certains défauts, comme je vous l'ai dit. Il y a à la fois une prise en compte globale, numérique, de toutes les composantes, donc on parle maintenant de modèles système Terre, mais en même temps, c'est certain, il n'y a pas encore de possibilité d'avoir une résolution optimale, un calcul sur de très long terme, et toutes les composantes interactives, en couplage les unes avec les autres de façon réaliste. En plus, certaines sont forcément paramétrisées de façon un peu empirique. Donc il y a effectivement encore des défauts dans ces modélisations, mais pour l'instant, l'aspect rassurant, c'est effectivement qu'on ne va pas, en tout cas pour le prochain siècle, vers un effondrement de cette circulation. Mais encore une fois, c'est quelque chose aussi qui peut vous faire penser à un titre de film, parce que c'était effectivement la thèse en fait, sous-jacente, cet effondrement de la circulation thermohaline ou de la circulation AMOC. C'était effectivement la thèse qui était derrière ce film à grand succès hollywoodien, Le jour d'après. Ici, c'était deux affiches. C'était rigolo parce qu'en France, il y avait la tour Eiffel gelée. Encore une fois, ça partait en fait de ces modélisations ultra simplifiées qui étaient disponibles à l'époque. Et la thèse étant qu'effectivement, il y aurait un effondrement. Alors, encore une fois, l'exagération sur l'impact sur le niveau marin était totale. Mais c'est quelque chose qui est encore pré-étudié dans ces modélisations pour savoir à partir de quand, notamment s'il y a perturbations hydriques importantes, notamment des calottes de glace, le Groenland, et aussi influence aussi du flux de fonte, en particulier de l'Antarctique de l'Ouest. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais l'aspect rassurant, c'est pour l'instant, pour le prochain siècle, on est apparemment... il y a peu de risques d'avoir un effondrement. Mais par contre, c'est cela qui est aussi important, c'est qu'on peut étudier ces effondrements de la circulation méridienne en considérant les données du passé. Hein, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, et ce qu'on a finalement vu, je vous en ai parlé de façon très brève, pendant la déglaciation, on a certains épisodes de refroidissement transitoire, et bien on va voir qu'effectivement, dans ce cas-là, on était dans la situation hollywoodienne, de d'effondrement de la circulation thermohaline. Alors, encore une fois, l'impact n'est pas du tout ce qui était décrit dans le film, mais on va voir que ces événements ont effectivement eu lieu. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou des biais dans les calculs numériques. C'est quelque chose qui a une certaine réalité. Alors, une des difficultés, c'est que pour se plonger dans ces données du passé, il faut effectivement avoir des indicateurs. Donc, je vous ai parlé d'indicateurs pour reconstituer des paléotempératures. On a vu qu'on peut regarder les grottes ornées, mais c'est limité au point de vue quantitatif. Eh bien, c'est la même chose pour la circulation thermohaline. Pour pouvoir étudier cette circulation thermohaline, il va nous falloir des traceurs. Et donc, une des difficultés, c'est qu'il faut des traceurs qui soient indépendants et quantitatif, enfin qualitatif, ou au moins semi-quantitatif. Je vous ai dit que pour l'actuel, le carbone 14 permettait de tracer les masses d'eau de l'AMOC. Ça, c'est une figure que je vous ai déjà montrée, qui montre en fait l'âge radiocarbone du CO2 dissous à l'heure actuelle dans les masses d'eau en profondeur. Donc on voit qu'au sens du C14, du carbone 14, il y a un âge du carbone qui est transporté par des masses d'eau sous forme dissoute, sous forme de, essentiellement d'ions bicarbonate, du nord au sud en Atlantique, du sud au nord dans l'océan Indien et du sud au nord pour l'océan Pacifique. On a vu que ces processus, bien, ils agissent sur des millénaires, dans l'océan actuel, donc on s'attend à pouvoir utiliser peut-être ce traceur radiocarbone, le radiocarbone, dans le passé. Alors, une difficulté, c'est que le radiocarbone, c'est d'abord aussi, d'abord et surtout, un chronomètre. Donc, dans une archive ancienne, le carbone 14, il n'y en a pratiquement plus à cause de la décroissance radioactive, c'est ce qui nous sert à dater les archives. Donc, pour pouvoir travailler et utiliser le carbone 14 comme outil de circulation océanique, il va falloir avoir une datation indépendante. En fait, il va falloir travailler sur des archives que l'on va pouvoir dater de façon indépendante du carbone 14, par exemple l'uranium-thorium, par exemple d'autres, enfin, des comptages de lamine, et dans ce cas-là, de voir la déviation du carbone 14, par exemple dans le Pacifique. Là, ici, il s'agit d'une différence apparente, actuelle, d'âge entre l'atmosphère et l'océan profond. On a pratiquement 2000 ans, l'âge du carbone au fond du Pacifique actuellement, dissous, moderne, eh bien, il a 2000 ans de plus que l'atmosphère. C'est un âge qui est fictif, puisqu'il s'agit d'une masse d'eau actuelle, mais cela correspond finalement au temps de transit entre la dernière fois où cette masse d'eau était en surface, en Atlantique Nord, pour faire simple, lorsqu'elle était en échange avec l'atmosphère, au niveau de l'interface océan-atmosphère, et le transport pendant tout le transit lié à cette circulation globale à grande échelle. Cette différence d'âge entre la profondeur et l'atmosphère peut évoluer dans le temps, c'est ce qu'on voudrait étudier. Le problème, c'est que pour l'étudier, ce delta, cette différence d'âge, il va falloir avoir accès à l'âge de façon indépendante du carbone 14, et dans les archives paléoclimatiques, le carbone 14, en particulier lorsque l'on regarde les choses vers 20 000 ans, 15 000 ans, eh bien, il a décru à cause de la décroissance radioactive qui est liée à l'âge. Donc il va falloir trouver une façon de faire. Encore une fois, la façon de faire, c'est de comparer des âges vrais, de façon indépendante, avec l'âge carbone 14 dans les archives marines, à la fois en profondeur et en surface. Alors, il y a d'autres traceurs qui peuvent être utilisés, notamment qui sont liés aux isotopes du carbone, à un autre isotope, notamment le carbone 13, qui, lui, est un isotope stable. Alors, il y a à peu près 1% de carbone 13 dans le carbone ambiant, dans le carbone normal, et certains processus physico-chimiques vont fractionner. Alors, il s'agit de fractionnement cinétique. En particulier, le phénomène de photosynthèse va pomper essentiellement, les plantes avec leur photosynthèse vont plutôt préférentiellement prendre du carbone 12 et laisser le carbone 13 dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a un phénomène de fractionnement. Alors, encore une fois, le rapport carbone 13 sur carbone 12 va donc être hétérogène dans le cycle du carbone, va donc se répartir de façon différente, et ça, c'est lié en particulier à ces phénomènes de fractionnement isotopique par la photosynthèse, et ce phénomène, il intervient à la fois pour la photosynthèse des plantes terrestres et des plantes marines, le plancton, le phytoplancton, et ce qui est important, c'est que cette photosynthèse va fractionner, la différence de composition isotopique va être de l'ordre de 2%, hein, de l'ordre de 20 pour 1000, on va avoir un déficit en carbone 13 de l'ordre de moins 20 pour 1000 pendant cette photosynthèse. Et c'est vrai aussi pour le phytoplancton qui va être fractionné de l'ordre de moins 20 pour 1000 lorsqu'il va synthétiser son carbone à partir du CO2 dissous dans l'eau de mer. Alors, de façon, encore une fois, ces fractionnements isotopiques sont généralement référencés par rapport à des standards. Le standard pour le carbone 13, pour le rapport carbone 13, qu'on exprime sous la forme d'un delta en pour 1000, parce qu'on regarde des petites variations, hein, donc au lieu de travailler sur des pourcents, on va travailler sur des pour 1000, donc 2% de fractionnement, c'est 20 pour 1000. Le standard qui est utilisé est un standard qui a été... qui n'est pas directement de l'eau de mer, mais qui est issu de l'eau de mer, ce qui fait que, globalement, le CO2 dissous dans l'eau de mer a une composition isotopique de l'ordre de 0 pour 1000. Mais par contre, le plancton, lui, va avoir des fractionnements de l'ordre de moins 20 pour 1000. Sur les continents, comme l'atmosphère est aussi fractionnée à moins 7 pour 1000, eh bien, la biosphère va être, elle, beaucoup plus fractionnée à moins 26 pour 1000. Et pendant, à cause de ce fractionnement et de ce pompage de carbone en surface par le plancton, eh bien, par effet de bilan, le CO2 dissous dans les masses d'eau de surface va avoir un delta C13 qui va être positif, hein, puisqu'on pompe du carbone essentiellement en le fractionnant, préférentiellement en prenant le carbone 12, eh bien, de façon par bilan de masse simple, le CO2 dissous dans les masses d'eau de surface va être un peu plus lourd, va présenter une composition isotopique, donc un delta C13 exprimé par cette formule, par rapport à un standard, qui va être un tout petit peu plus élevé, de 1 à 2 pour 1000. Alors, quand on dit un tout petit peu plus compliqué, les spectromètres de masse permettent de mesurer des millièmes de pour 1000. Donc, les signaux peuvent être très importants. Et donc, dans les masses d'eau de surface et en profondeur, il y a donc une hétérogénéité du delta C13 qui est bien comprise depuis des décennies. Ici, c'est une vue, en fait, une section de l'Atlantique, du nord au sud, enfin du sud au nord, en fonction de la profondeur, de 0 à 5 km, avec le delta C13. Et ce que l'on voit, c'est qu'essentiellement, on a en surface, comme je viens de vous le dire, un maximum qui est lié à cette photosynthèse, donc effet de bilan sur le CO2 dissous, et en profondeur. Donc là, il s'agit de mesures un peu comme le C14 que je vous ai montré auparavant, mesurées dans le CO2 dissous actuel. Eh bien, on peut mesurer directement dans le CO2 le delta C13, donc dans les masses d'eau actuelles, et on voit que les eaux qui étaient salées et qui plongent en Atlantique Nord, qui étaient salées, qui étaient aussi très concentrées en oxygène à cause de cette ventilation de surface et cette plongée dans des zones de faible température, eh bien, elles sont caractérisées par un maximum du delta C13. On a des valeurs de l'ordre de 1,1 pour 1000. Donc il faudra imaginer des milliers de mesures qui ont été mesurées à différentes profondeurs avec des prélèvements, avec des bateaux océanographiques, et on peut matérialiser donc les différentes masses d'eau, à la fois en Atlantique, avec l'eau de fond antarctique, l'eau profonde nord-atlantique, qui est la composante de retour en fait en profondeur de la circulation thermohaline, de cette AMOC. Et c'est quelque chose en fait qui intéresse aussi l'océan global. Donc par exemple, ici, il s'agit d'un diagramme aussi d'océanographie chimique actuelle qui reporte en fait les valeurs de delta C13 en fonction de la teneur en oxygène. Je vous ai montré que l'oxygène était, la ventilation de l'océan était complètement liée à cette circulation à très grande échelle. Eh bien, on voit une corrélation. Ici, il s'agit de centaines, de milliers de mesures en fait qui ont été établies, où l'on a fait la mesure en fait de l'oxygène dissous, exprimé en millimoles par micromoles par kilo, en fonction du delta C13, et on voit une régression, enfin une corrélation entre les deux, depuis l'Atlantique Nord, avec des valeurs qui sont élevées, hein, de l'ordre de 1 pour 1000, et au cours du transport par la circulation profonde, une diminution du delta C13, on va évoluer vers des teneurs qui montent des fractionnements même inférieurs à 0, donc ici on a moins 0,5, donc un fractionnement qui est de l'ordre de 1,5 pour 1000, ce qui est très facile à mesurer. Enfin, je veux dire, c'est 100 fois les barres d'erreur. Donc on va pouvoir utiliser ces traceurs dans le passé, parce qu'il y a des archives où on peut mesurer, c'est ça le propos, c'est-à-dire que malheureusement on ne peut pas mesurer la dynamique ou la salinité directement, on est obligé de prendre des traceurs, des indicateurs qui vont nous permettre de reconstituer cette circulation. Donc effectivement, quand on change la circulation, on va changer cette corrélation entre le delta C13 suivant les zones géographiques où l'on se place. Donc là, il s'agit d'un diagramme qui compile toutes les mesures qui ont été faites en Atlantique Nord, en Atlantique Sud, jusqu'à le rouge, c'est le Pacifique central qui monte les valeurs les plus fractionnées, les plus âgées. Donc on a aussi une corrélation entre l'âge carbone 14 et le delta C13. Donc c'est un outil qui va nous être utile pour reconstituer dans le passé s'il n'y a pas trop d'autres causes de perturbation. Un autre outil qui est très utile pour ces reconstitutions de l'AMOC dans le passé est un rapport isotopique des séries d'uranium. Alors ici, c'est une planche en fait, qui résume un peu les choses. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a dans l'eau de mer de l'uranium dissous. Le temps de résidence de l'uranium dans l'océan, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a à peu près 3 microgrammes par litre, donc ce n'est pas une source extractive, mais c'est à peu près constant, le temps de résidence de l'uranium dans l'océan est de l'ordre de 300 à 400 000 ans, donc l'uranium est très homogénéisé dans l'océan. Encore une fois, ça dépend de la salinité, c'est le rapport en fait uranium sur sodium ou uranium sur chlore qui est constant, mais globalement, comme les salinités varient finalement assez peu dans l'océan, on a une teneur qui est de l'ordre de 3 microgrammes par litre à peu près partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet uranium, il est composé essentiellement d'uranium-238, un centième d'uranium-235, et ces deux isotopes sont radioactifs avec des périodes très très longues, 4,5 milliards d'années pour l'uranium-238, 0,7 milliards d'années pour le 235. Et donc, il y a des chaînes radioactives, ce qu'on appelle les séries de l'uranium, qui sont résumées ici pour l'uranium-238, pour l'uranium-235, qui perdent de la masse par radioactivité et qui va évoluer, former d'autres radioisotopes, en particulier ici le thorium-230, qui fait partie de cette chaîne, qui s'arrête au plomb. L'autre chaîne, toutes les chaînes radioactives, il y en a trois en fait, 238, 235 et 232, qui n'est pas mentionnée parce qu'elle n'est pas utile ici, mais vont évoluer vers différents isotopes du plomb. Mais comme les périodes les plus importantes sont les périodes de départ, eh bien, il y a établissement de ce qu'on appelle un équilibre séculaire, c'est-à-dire que la radioactivité de chaque élément, de chaque isotope en fait, est la même. Et donc, on a, sauf s'il y a des changements liés à la solubilité de ces différents éléments chimiques, on a un équilibre séculaire qui est lié à cette teneur constante et au fait qu'il y a des croissances radioactives en permanence dans la colonne d'eau, parce que cet uranium est homogénéisé. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces deux éléments chimiques, 230 thorium et protactinium, 231 ? Eh bien, c'est que ces éléments chimiques, contrairement à l'uranium, sont complètement insolubles, sont très insolubles, et dès qu'ils vont apparaître, ils vont s'accrocher aux particules, être balayés, être entraînés. Le terme anglo-saxon, c'est scavenged. Donc, il va y avoir une rupture, justement, de cet équilibre. Ils ne vont pas rester en solution très longtemps. Ils vont être entraînés notamment par les particules et on va avoir donc des fractionnements dans cette chaîne de radioactive d'équilibre séculaire. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le thorium en fait, est beaucoup plus insoluble finalement que le protactinium. Et à cause de cela, ça va créer des changements dans le rapport protactinium sur thorium-230. Donc, tout calcul fait, à cause des différentes concentrations en uranium-238, 235 des périodes et autres, on s'attend, si l'océan était une flaque d'eau, s'il n'y avait pas de transport différentiel, si le protactinium et le thorium étaient produits de façon simple et sédimentaient de façon verticale, eh bien, on devrait avoir un rapport protactinium-231 sur thorium-230 en activité qui serait de l'ordre de 0,09. Donc ici, vous avez les chiffres qui sont indiqués ici, montrent en fait la production de thorium-230, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été réalisées dans les masses d'eau en Atlantique et dans les autres océans. La production totale, en fait, exprimée ici en microbecquerels par seconde, la production totale de 231, qui dépend des concentrations ici de 235. Donc on s'attendrait, si les choses étaient très simples avec une sédimentation verticale seulement, on s'attendrait à avoir un rapport de production constant dans les sédiments. Or, en fait, les données océanographiques sur ces isotopes montrent qu'en fait, il y a un transport, en particulier par les masses d'eau liées à l'eau profonde nord-atlantique. Et ici, ce qui est indiqué, il y a des flèches en fait, qui indiquent des flux des transports en fait, de thorium-230 et de protactinium-231. On voit ici, par exemple, ça a été estimé à partir de compilations de mesures de ces deux isotopes dans la colonne d'eau, on voit que les transports eh bien, sont très importants, mais que le rapport n'est pas du tout de 0,09. En d'autres termes, le protactinium ici, qui est représenté avec les flèches en orange, un transport qui est beaucoup plus important, il reste beaucoup plus en solution que le thorium qui, lui, va partir très rapidement vers le fond. Et donc, on s'attend à avoir un transport plus important du protactinium par cette circulation profonde du nord vers le sud, de la branche profonde de la MOC, un transport préférentiel du protactinium 231 par rapport au 230 thorium, ce qui fait que le rapport protactinium sur thorium va pouvoir être utile dans le passé, parce qu'on peut le mesurer, on connaît les périodes radioactives, donc on peut corriger, et on peut avoir accès justement à des changements du transport. Alors ça peut paraître très compliqué, mais finalement c'est un outil, comme on va le voir, assez utile. Il y a un autre juste pour... Bon, je ne vais pas faire... Le propos n'est pas d'être exhaustif sur tous les traceurs qui sont utilisés, mais un traceur qui est effectivement utilisé dans la littérature est fondé sur un autre principe, sur d'autres isotopes d'un autre élément, ici le néodyme. Et alors là, c'est un autre principe de base qui est utilisé, c'est le fait que le rapport néodyme 143 sur 144 dépend en fait du flux des rivières, de la composition isotopique du flux des rivières, qui elle-même dépend de l'âge des roches continentales qui sont érodées chimiquement sur les différents continents. Et de façon un peu fortuite, il y a des gradients, des différences importantes, notamment entre le Pacifique et tous les continents qui bordent l'Atlantique. Et à cause de cela, eh bien, il y a, quand on fait des mesures de ce rapport 143 sur 144 néodyme, que l'on exprime, les variations sont très petites, elles sont exprimées non pas en delta, mais en epsilon, c'est-à-dire faut multiplier par 10 puissance 4, ce n'est pas des pour 1000, c'est un dixième de pour 1000. Donc les variations sont assez faibles, mais la spectrométrie de masse permettant de le faire, on peut voir des changements de composition isotopique assez fines, eh bien, on voit, ici, il s'agit d'une compilation des mesures dans la colonne d'eau actuelle de ce rapport epsilon-néodyme exprimé avec différentes valeurs, peu importe, qui sont représentées avec ce code de couleur, avec un gradient très important entre le Pacifique Nord et l'Atlantique Nord. Et donc, on comprend que s'il y a des changements de la circulation qui transporte des masses d'eau depuis l'Atlantique Nord jusqu'au Pacifique, si ça ralentit ou si ça augmente, eh bien on va s'attendre à avoir des changements que l'on va pouvoir étudier dans les sédiments de cette teneur isotopique, si on peut la mesurer dans les sédiments marins. Alors, maintenant, je vais revenir avec ce préambule sur les outils qu'on va pouvoir utiliser. Encore une fois, ces outils, ces indicateurs comme vous le voyez, ils ont l'air d'être quand même assez imparfaits. C'est-à-dire que pour l'instant, je vous ai arrivé à quantifier en termes de sphère drop, on n'en est pas là. Hein, alors il va falloir comparer avec la modélisation, mais c'est vrai à la fois pour le delta C13, pour le néodyme, pour le protactinium, le carbone 14, et en plus on est obligé de corriger avec les âges. Donc tous ces indicateurs sont, on va dire, au mieux semi-quantitatifs, voire qualitatifs, mais le fait d'avoir une correspondance entre ces indicateurs va pouvoir nous permettre d'avancer vers l'étude, justement, de ces changements de la circulation thermohaline dans le passé. Alors, une des vues que j'ai montrées dans le dernier cours, et qui était liée à des compilations de changements de température à l'échelle de la planète. Je vous ai parlé des derniers détails, mais je vous ai aussi décrit une étude que l'on avait réalisée en compilant de façon très simple le changement de température, enfin les températures moyennes de réchauffement post-glaciaire de l'hémisphère nord, qui sont indiquées ici en rouge, et le changement de température ici dans l'hémisphère hémisphère nord, c'est indiqué en bleu, et hémisphère sud, indiqué en rouge. Je vous avais dit qu'on pouvait directement faire la différence entre le réchauffement précoce dans l'hémisphère nord par rapport au réchauffement qui est beaucoup plus tardif, avec des soubresauts, avec des transitoires froides dans l'hémisphère nord. Et on avait vu, je vous avais dit, que le gradient interhémisphérique, la différence entre les deux hémisphères, avait une forme de W, et que cette forme de W, finalement, elle est corrélée avec un indicateur, avec justement ce protactinium thorium, qui est représenté ici. Je vous ai déjà montré ça, mais c'était pour repréciser justement l'utilité de ce traceur. On a dans des sédiments ici de l'Atlantique Nord-Ouest une covariation entre ce gradient interhémisphérique et l'intensité de la circulation océanique profonde, vue avec ce rapport qui est représenté la tête en bas. Ici, on augmente. Il y a donc le rapport de production 0,09. Est effectivement le rapport qu'on doit trouver s'il n'y a plus de circulation, s'il n'y a plus de transport différentiel. Lorsque la circulation profonde s'arrête, eh bien, on s'attend à avoir un rapport entre le protactinium et le thorium qui est effectivement le rapport de production, parce qu'il est lié à une chute verticale avec les particules et pas de fractionnement entre protactinium et thorium, et par contre une intensité importante de la circulation profonde va entraîner une perte en fait de protactinium 231, donc par transport, et donc on s'attend en Atlantique Nord à avoir des plus faibles rapports isotopiques protactinium 231 sur 230. C'est effectivement ce que l'on voit. On évolue ici de 0,09 valeur de la valeur de production avec une diminution qui indique une intensité beaucoup plus importante de cette circulation profonde. Donc ça, ça a été établi pour un site, au niveau des Bermudes. Il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été réalisées en Atlantique Nord, dont une compilation récente, et vous est montrée sur ce diagramme, en fait, qui représente... Alors, à chaque fois, je montre l'évolution du temps, parce que vous allez voir qu'il y a des diagrammes qui évoluent de droite à gauche, c'était le dernier, et d'autres de gauche à droite. Donc ici, on évolue de droite à gauche. Donc ce que l'on voit ici, c'est compiler à la fois les données du Bermuda Rise que j'ai montré juste auparavant, et d'autres données pour d'autres sites de l'Atlantique Nord, avec des datations, parce qu'il faut dans ces archives avoir des datations indépendantes. Généralement, elles sont établies grâce au carbone 14. En fonction du temps, on voit une diminution, un effondrement. On va pratiquement jusqu'au rapport de production de l'ordre de 0,09 pendant la période qu'on a appelée H1, et je vous dirai pourquoi, mais à partir qui, globalement, démarre vers 18 000 ans pour se terminer vers 14 500 avant le présent. Et on a une autre transitoire qui correspond à un autre événement, Dryas récent, ou Younger Dryas en anglais. Des événements qui ont l'air d'être concomitants dans les différents enregistrements, mais on voit aussi qu'il y a une certaine dispersion, et pour l'instant, on ne parle pas encore de de quantification. Ce qu'on sait, c'est que pour aller jusqu'à un rapport de production de 0,009, il faut carrément stopper cette circulation thermaline. Donc on est bien dans un effondrement, comme je vous l'avais indiqué. Donc ça correspond finalement à cette boucle d'hystérésis. On a passé un point de rupture, un seuil, un point de bifurcation vers une circulation beaucoup plus faible. Alors, il y a un certain accord, un bon accord, entre guillemets, entre les différents indicateurs. Alors, il n'est pas parfait dans le détail. Ici, c'est tiré d'une compilation récente, une comparaison entre des indicateurs. D'une part, le fameux rapport protactinium-thorium, une courbe qui a été établie aussi en Atlantique Nord de l'epsilon néodyme, où on retrouve des basses valeurs ici, des hautes valeurs pour l'Holocène, et le delta C13 compilé dans plusieurs carottes, à la fois en profondeur supérieure à 2 km et inférieure à 2 km. Donc on retrouve, en fait, en particulier au-delà de 2 km, des minima, et alors que pour l'Holocène, pour la période récente, on a des maxima qui sont liés à cette circulation intense, comme je vous l'ai dit, que l'on voit avec le delta C13. Et bien, si on arrête cette circulation, ça va tendre à faire diminuer, en particulier pendant cette période de 18 000 ans à 14 500 avant le présent, qui est celle qui nous intéresse le plus actuellement et qui est très probablement liée à cet effondrement de la circulation AMOC. Ça, c'est un autre indicateur qui est étudié en particulier au niveau du détroit de Floride par une équipe américaine et qui est directement lié à l'intensité du Gulf Stream qui participe aussi au transport de ces 15 millions de mètres cubes par seconde. Mais on a vu que le Gulf Stream, c'est d'abord un courant marin de surface qui transporte pratiquement 10 fois plus avec des recirculations, mais que parmi dans ce transport, il y a aussi cette branche supérieure, elle participe au transport du sud vers le nord de ces masses d'eau chaude de la circulation AMOC. Et donc, il est possible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de regarder des fluctuations en fait, de l'intensité dans cette zone du détroit de Floride, où le Gulf Stream est naissant, il est possible d'étudier justement des anomalies du delta O18 qui sont liées à la densité et liées à des changements en fait, de son intensité. Donc on a globalement des enregistrements qui signent un peu la même chose de façon qualitative, mais bon, si on regarde un peu les détails, on voit par exemple ici que le néodyme ne remonte pas avant, donc clairement les choses sont différentes, mais un accord qui est somme toute qualitatif. Il y a d'autres indicateurs qui sont quelquefois utilisés. En particulier, je vous ai montré, quand on a considéré le détail un peu océanographique de cette AMOC, je vous ai parlé des zones de plongée, je vous ai parlé des zones aussi du fait que les masses d'eau profondes qui plongent, notamment dans les mers nordiques, sont obligées de remonter dans des zones de débordement, overflow ou débordement en français, au niveau de la ride entre le Groenland et l'Écosse. On a plusieurs passages, et dans cette zone de passage, eh bien, il est possible d'y mettre des courantomètres pour pouvoir directement mesurer le flux profond, je vous l'ai montré. Eh bien, dans ces zones en fait, de passage, au débouché de ces débordements, eh bien, la MOC est tellement intense et tellement rapide qu'elle a une influence, en fait, le courant profond a aussi une influence sur la granulométrie et sur du sédiment, va avoir tendance à le perturber et à entraîner plus ou moins de particules fines. Et donc, directement, en faisant des études de granulométrie dans ces sédiments, il est possible en fait, d'avoir un indicateur qualitatif de l'intensité de la MOC, c'est ce qui a été utilisé par certains chercheurs, dans ces zones particulières. Encore une fois, il faut vraiment qu'il y ait une interaction et une vitesse du courant profond suffisante pour pouvoir remobiliser le sédiment et affecter la granulométrie. Mais ici, vous avez tiré d'une étude parmi d'autres sur l'Atlantique Nord, toujours les mêmes constantes de temps. On a ici une courbe qui représente le delta C13 benthique. Donc on voit l'événement H1, l'événement Dreyas récent, avec des imperfections. Encore une fois, ici, on s'effondre vers 18 000 ans. Et on a une courbe qui montre en fait une forte évolution en fait de la granulométrie avec, pendant les événements d'effondrement de la circulation, une granulométrie qui baisse, c'est-à-dire que les fines peuvent rester. Et donc on a un outil qualitatif qui permet de confirmer finalement que ce que l'on voit est bien lié à un flux profond qui va évoluer dans le temps. Alors, quel est le mécanisme responsable au départ de cet effondrement de cette circulation thermohaline, AMOC ? Eh bien, c'est clairement, comme je vous l'ai dit, c'est une perturbation hydrologique, c'est ce que l'on voit dans la modélisation. Mais d'où vient cette perturbation hydrologique ? Eh bien, c'est clairement lié aux calottes de glace continentales, la Laurentide, la calotte fénoscandienne, qui ont fondu de façon prépondérante en Atlantique Nord. Et donc, il faut s'intéresser, pour essayer de comprendre un peu les choses, regarder le niveau marin pendant cette période tout à fait précoce en fait de la déglaciation. Ici, je vous ai déjà montré, je vous ai parlé en fait des reconstitutions du niveau marin pendant la dernière transition post-glaciaire que l'on peut réaliser à partir de la datation de coraux. Il y a des phénomènes secondaires qui nécessitent de la modélisation géophysique, mais tout calcul fait, eh bien, on trouve une courbe de remontée post-glaciaire de l'ordre de 130 mètres. Avec, lorsqu'on regarde un peu les détails, on voit qu'entre 21 000 ans, qui est l'âge iconique, entre guillemets, officiel du maximum glaciaire, et la période jusqu'à pratiquement 17 000 ans, on voit qu'il y a une augmentation du niveau de la mer qui n'est pas très importante, qui est de l'ordre de plus de 10 mètres, de 21 000 ans à 18 000 ans. Il y a eu pratiquement 10 mètres en fait, de niveau marin. 10 mètres de niveau marin, ça peut paraître peu, mais c'est plus gros en fait, que le Groenland. Le Groenland ne représente que 7 mètres, donc c'est quand même un flux important d'eau douce qui s'est déversé en Atlantique Nord de façon prépondérante et qui donc a forcément affecté la salinité, la densité de l'eau de mer dans cette zone. Alors donc, pour bien faire, il faudrait avoir une idée quantitative des sources des différentes calottes de glace fénoscandiennes, calottes de glace Laurentides, d'autres calottes de glace en particulier qui étaient situées plus au nord, en particulier une qui était située au niveau de la mer de Barents, aussi pour l'hémisphère sud, l'Antarctique. Donc il faudrait avoir une idée quantitative des différents flux au cours du temps. Pour l'instant, on ne l'a pas, même si je vous ai montré qu'on arrivait à cartographier au cours du temps l'extension de ces calottes de glace, les flux d'eau. Pour l'instant, de façon quantifiée et chiffrée, on ne les a pas. Mais on peut aller regarder des sédiments, des archives qui sont localisés directement proches des sources pour essayer de voir des variations, des flux d'eau douce liés à ces calottes de glace. C'est ce qui a été fait pour les différentes calottes de glace, même s'il est très difficile en fait, de remonter à des flux d'eau, parce que en fait, ce que l'on aimerait pouvoir faire, c'est carrément quantifier le flux des rivières issues de la fonte de ces calottes de glace, les exprimer en Sverdrup, pour essayer de voir où est-ce qu'elles sont amenées de l'eau douce et comment ça s'est mélangé dans l'océan de surface pour effectivement essayer de le modéliser. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là et on a accès qu'à des informations fragmentaires, mais beaucoup de chercheurs ont regardé des sédiments ici ou là pour essayer d'identifier des sources d'eau précoces. Ici, je vous montre tiré d'une étude récente des données en fait qui ont été établies dans le golfe du Mexique avec des indicateurs, des mesures en fait qui ont été réalisées sur le delta O18 qui varie en fonction de la salinité, parce que pendant la glaciation, il y avait une énorme calotte de glace, la Laurentide. Cette calotte de glace, elle était composée d'eau très fractionnée à cause du transport atmosphérique. L'eau dans les calottes de glace a une composition isotopique très déficitaire en oxygène 18. Et donc, le flux de rivière avait une composition isotopique très basse en delta O18. Et donc, comme ici, la représentation est avec un axe négatif, ici, on évolue de moins 4 à 2. Quand on ajoute de l'eau de fonte de glaciers ou de calottes de glace, on s'attend à avoir un maximum sur ce type de courbe qui est représenté, en fait, à l'envers. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'est de récupérer, pas très loin de l'embouchure du Mississippi, donc au sud de la calotte Laurentide, des sédiments et d'étudier, de bien les dater. Ici, il s'agit de toutes les petits triangles montrent les datations qui ont été réalisées pour avoir une échelle temporelle sur la série temporelle et des fluctuations du delta O18 mesurées dans différents foraminifères planctoniques, peu importe. Et toutes ces anomalies, en fait, signent le flux lié à la calotte Laurentide. Mais ce qu'il faut voir, en fait, dans ce diagramme, c'est qu'il y a effectivement un flux qui est très précoce, qui intervient pratiquement à 18 000 ans. On commence à avoir un flux d'eau douce qui provient de la fonte de la calotte Laurentide via le Mississippi. Alors, encore une fois, il y avait d'autres fuites vers l'Atlantique, comme on va le voir, mais donc déjà, on a la preuve en fait, qu'il y a eu fonte assez précoce dans ces zones. Alors, avec mon équipe, on a travaillé, nous, au niveau des calottes de glace du nord de l'Europe. Ici, ce que l'on a fait, en fait, c'était de regarder, en ayant prélevé, en fait, une carotte de sédiments dans le golfe de Gascogne, les fluctuations, en fait, du flux du fleuve Manche, parce que, encore une fois, pendant la glaciation, le niveau de la mer était de 130 mètres plus bas, donc la Manche était en fait exondée, était occupée par un fleuve, un énorme fleuve, qui est très bien cartographié par géophysique. Alors, c'est ce qui est rappelé ici, sur cette carte, en fait, vous avez le circuit hydrologique, en fait, du fleuve Manche, qui a été très bien étudié par les géologues, avec des méthodes géophysiques. Et ce fleuve Manche, pendant la glaciation, donc le niveau de la mer était situé ici, c'est ce qui est représenté avec la ligne pointillée. Vous avez le trait de côte approximatif à 21 000 ans avant le présent. Eh bien, ce fleuve Manche, en fait, drainait l'eau de la Tamise, l'eau de la Somme, l'eau de la Seine, l'eau du Rhin, de la Meuse et d'autres encore. Et en provenance, en fait, de la fonte des calottes de glace qui étaient situées sur les îles britanniques et une partie venant de l'ouest de la partie ouest de la calotte fénoscandienne avec, alors encore une fois, il y a des détails sur ce qui s'est passé au nord, au niveau de la mer du Nord, qui sont encore à creuser, mais il est indéniable, en fait, qu'une grande partie de ce flux de fonte venant de la calotte fénoscandienne est partie vers le fleuve Manche, et donc ce que l'on a essayé de faire, c'était de retrouver ça dans des archives marines au niveau du golfe de Gascogne. Et pour ce faire, on a étudié différents indicateurs, et notamment, on a utilisé un indicateur, un index. Alors, je ne vous en ai pas encore parlé. Je vous ai parlé des tétraéthers GDGT comme outil de paléotempérature. Il y a différents types de molécules qui peuvent être synthétisées, soit par des bactéries, soit par des archées. Bactéries sur le continent et archées dans la colonne d'eau. Et en faisant des rapports moléculaires, on peut avoir accès à un index que l'on appelle l'index BIT. Cet index permet, enfin, qui varie entre 0 et 1, est en fait un index de mélange entre un flux venant du continent par rapport à un flux venant de l'océan. Et donc, cet index varie de 0 à 1. Il est qualitatif, mais il peut nous servir en fait d'indicateur de flux de rivière, de flux du fleuve. C'est ce que nous avons fait, c'est ce qui est utilisé en fait. Bon, ça a été calibré sur des fleuves. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui a été important et un résultat donc, que nous avons publié il y a déjà quelques temps, c'est qu'on a pu montrer avec cet indicateur BIT, le BIT index, qu'il y avait une activation très précoce en fait du fleuve Manche pendant la déglaciation. C'est ce qui est résumé en fait sur ces panneaux. Ici, vous avez un panneau qui représente au cours du temps, avec beaucoup de datations carbone 14 qui permettent de reconstituer et d'avoir une chronologie fine, des fluctuations en fait de l'indicateur BIT au cours du temps, avec un maximum situé vers 18 000 ans, 17 000 ans. Donc un flux de rivière, un flux de fleuve Manche très important pendant cette période, mais qui commence pratiquement dès 20 000 ans, dès 21 000 ans, dès le début de la déglaciation, on voit qu'il y a eu effectivement réactivation du fleuve Manche de façon colossale, parce que pour faire évoluer le rapport BIT de pratiquement 0 jusqu'à une valeur de l'ordre de 0,6, il faut effectivement un flux qualitativement très important de fleuve. Alors, pour mémoire, ici, ce qui est représenté aussi, c'est l'évolution du niveau de la mer pendant la même période. Alors, il y a d'autres indicateurs dans les sédiments. On a des restes d'algues d'eau douce qui proviennent du continent, exactement dans les mêmes sédiments. On a d'autres indicateurs encore, mais vraiment une mise en évidence tout à fait nette d'un flux des fleuves liés à la fonte de la Fennoscandie, de la calotte fennoscandienne, très précoce, à partir de 20 000 ans, et avec un maximum vers 17-18 000 ans, ce qui a forcément eu un impact hydrologique sur l'Atlantique Nord. Alors, de façon plus indirecte sur l'Atlantique Nord, mais encore une fois intéressant, on a aussi travaillé avec mon équipe, là, il s'agissait d'un étudiant en thèse qui est maintenant chercheur à l'IFREMER, on a étudié en fait d'autres composantes en fait de la fonte de cette calotte fennoscandienne, mais en regardant l'apport vers l'est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait effectivement un apport via le fleuve Manche qui est résumé et que l'on a pu étudier dans cette carotte de dans le golfe de Gascogne. Mais une grosse partie de la fonte de la calotte fennoscandienne partait vers le sud, avait formé en fait des lacs proglaciaires, un petit peu l'équivalent de ce que l'on avait vu avec le lac Agassiz pour la calotte Laurentide, et tout cela était drainé par des bassins de versants importants, en particulier celui du Dniepr. Et il y avait aussi des composantes qui allaient pour aller jusqu'au Danube ici. Et donc, il y avait aussi une composante venant des Alpes, avec en particulier via le Danube, donc une contribution qui provenait aussi des calottes qui étaient plus importantes, comme je vous l'ai montré. Donc, dans cette carotte, dans les sédiments, encore une fois, on n'en a pas étudié qu'une, mais les enregistrements les plus beaux ont été établis sur un enregistrement qui est situé et qui collecte finalement les eaux de tous ces bassins versants, à la fois celui du Danube et celui du Dniepr, avec une contribution venant de très haut en latitude. Eh bien, on a pu reconstituer l'évolution de cette fonte de la calotte fennoscandienne. C'est ce qui est indiqué, en fait, sur ce diagramme, qui résume un petit peu l'étude qui a été publiée dans le cadre de la thèse et d'une étude que l'on a publiée en 2013. En fonction du temps, donc encore une fois avec des datations dans ces sédiments de mer Noire, en fonction du temps exprimé en milliers d'années, on a différents enregistrements, à la fois le Beat Index, cet indicateur de flux de rivière, d'autres indicateurs moléculaires, en particulier de molécules qui sont liées à un flux d'érosion des sols et autres. On a aussi des analyses élémentaires très fines avec des scanners XRF qui permettent de regarder à très haute résolution les flux de titane qui sont liés à des minéraux terrigènes, donc qui proviennent de l'érosion et du transport par les fleuves. Et on a, dans le cadre de cette étude, innové en travaillant en fait sur la composition isotopique en néodyme du flux de rivière, justement, avec au préalable une étude en fait sur les différentes sources de ces roches, et avec un rapport, enfin, une composition en néodyme qui dépend de la source de ces roches transportées, érodées et ensuite transportées par les rivières, avec un transport de composition correspondant à la zone baltique, qui correspond à des maxima sur ce type de courbe. Donc, enfin, le résultat des courses était essentiellement de pouvoir montrer en fait qu'il y a eu une réactivation importante des saccades. En fait, on voit aussi des fluctuations pratiquement millénaires, mais une intensification du flux lié à cette fonte de la calotte fennoscandienne vers après 18 000 ans avant le présent, 18 000, 17 000, jusqu'à pratiquement 15 000 ou 16 000 ans avant le présent, on a effectivement une composante importante. Alors encore une fois, là, il s'agit de flux vers la mer Noire, mais on a, comme on l'a vu, un transport via le fleuve Manche. Il y avait aussi d'autres composantes qui arrivaient directement en Atlantique Nord, venant de la calotte fennoscandienne, et d'autres composantes qui venaient de la fonte de la calotte Laurentide, mais des composantes de flux d'eau douce qui sont effectivement précoces, à partir de 18 000 ou 19 000 ans avant le présent, venant de ces fontes de calotte de glace. Alors, un des problèmes importants aussi, c'est qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu que apport de d'eau douce via les rivières, via les fleuves, il y avait aussi directement un apport d'eau douce par les icebergs. Donc ça, j'avais utilisé ça comme illustration pour la fiche du cours. Effectivement, c'est un mode aussi de transport qui est différent, qui est complémentaire, parce que les calottes de glace peuvent directement aussi perdre de la masse directement en Atlantique Nord par perte d'iceberg. Et dans ce cas-là, les icebergs vont se fondre et effectivement impacter l'hydrologie de l'Atlantique Nord avec leur effet notamment sur la salinité. Alors malheureusement, il n'y a pas de fossiles d'iceberg que l'on peut retrouver. Alors, c'est pas complètement vrai, mais il est très difficile en fait de tracer les icebergs directement lorsqu'ils sont composés que de glace. On va voir que c'est possible parce que en fait, quand même, parce que la composition isotopique de l'oxygène 18 est tout à fait caractéristique. C'est la même chose que ce que l'on a vu pour le flux via le Mississippi, le flux d'eau douce qui correspond à la fonte d'une calotte de glace, donc aussi aux icebergs, va avoir une composition isotopique en delta 18 qui va être très faible, donc un déficit en oxygène 18 lié au phénomène de formation des calottes de glace par évaporation et précipitation. Mais un autre moyen en fait de caractériser et de tracer dans le temps et de reconstituer les flux d'iceberg, c'est aussi de regarder le transport de rocheux, des transports d'éléments rocheux qui peuvent être transportés en base de ces calottes de glace. Je vous ai montré que à la fois les glaciers et les calottes de glace avaient un énorme impact en fait sur l'érosion des roches sous-jacentes. Et il est, dans certains cas, eh bien, il y a un transport de débris rocheux sous forme de radeaux de glace, ce qu'on appelle en anglais le ice rafting. Donc IRD, on parle de IRD, j'utiliserai cet acronyme aussi en français pour ice rafted debris. Et donc là, ici, ce que je vous ai représenté, c'est quelques photographies à la fois du Groenland et une autre en Alaska qui représentent des icebergs qui se sont retournés. En fait, ici, c'est un iceberg qui s'est complètement retourné et qui montre sa face inférieure qui transporte, en fait, qui est composée essentiellement de glace très, très sale qui contient beaucoup de particules, soit fines, soit plus importantes. Ici, vous avez aussi un iceberg qui s'est retourné en Alaska avec des éléments rocheux qui peuvent être très importants au point de vue de leur volume. Mais on conçoit bien aussi qu'on peut avoir un transport de ces icebergs en Atlantique Nord pendant cette phase de remontée du niveau de la mer et donc de fonte des calottes de glace du maximum glaciaire qui vont pouvoir transporter ces éléments en Atlantique Nord. Alors, un des premiers, c'est quelque chose qui a été étudié depuis assez longtemps, et un des premiers à l'avoir fait de façon systématique en Atlantique Nord, et Hartmut Heinrich, qui, en 88, a fait un article en fait, qui compilait pour quelques carottes sédimentaires de l'Atlantique Nord. Il avait compté en fait, directement en fonction de la profondeur. Là, il n'y avait pas d'échelle d'âge. Il s'agit en fait, d'une estimation des pourcentages en fait, de ice-rafted debris, donc de ces fameux petits éléments, alors microscopiques, ici il s'agit de petits cailloux transportés par les icebergs, et il a pu les compter directement sous loupe binoculaire, et au milieu de l'Atlantique, il a pu montrer en fait, qu'il y avait des événements en fonction du temps dans une carotte, ou en fonction de la profondeur, ici il s'agit d'une carotte qui ne fait que 2 mètres, pratiquement, ou 3 mètres de profondeur dans le sédiment, il a pu montrer qu'il y avait une variabilité en fait, des flux, enfin, des concentrations, des pourcentages de ces fameux IRD avec des couches successives. La chronologie en fait, de cette carotte qui couvre pratiquement 100 000 ans était très incertaine. Il a pu utiliser en fait, la datation qui avait été réalisée sur des couches de volcaniques, ce qui est indiqué ici, le H1 et H2. Enfin, il a pu identifier ces tephras, ces couches volcaniques, qui, par ailleurs, sont bien datées sur le continent, vers 50 000 ans, vers 12 000 ans. Et donc, ce que Hartmut Heinrich a pu montrer, c'est qu'en fait, il y avait des événements de flux de ces IRD via les icebergs. Donc, il avait bien évidemment compris en fait, qu'il s'agissait d'un transport par les icebergs au milieu de l'Atlantique, de façon préférentielle, pendant cette période pendant ces périodes, qui, bon, au début, il y avait une étude et des débats pour savoir si c'est un phénomène qui est périodique, mais il a compris qu'il y avait une récurrence de ces phénomènes de débâcle et de flux d'IRD pendant la glaciation, parce que là, il s'agit carrément de 100, on remonte ici pratiquement jusqu'à 80 000 ans, la période qui nous intéresse le plus, hein, qui correspond à ce dernier pic, cette période, alors encore une fois, qui maintenant est baptisée d'après son nom, on appelle ça des couches de Heinrich, puisque là, il s'agit carrément de couches d'IRD, ces différents événements de Heinrich, eh bien, ils ne sont pas périodiques, mais ils sont récurrents, ils ont eu lieu plusieurs fois pendant la glaciation, et le dernier, c'est ce que l'on appelle le H1, est tout à fait matérialisé, et c'est ce H1 qui a eu lieu qui correspond à peu près vers 17 000 ans avant le présent, même si à l'époque, il y avait très peu de datation. Et ce que Hartmut Heinrich a aussi compris, c'est qu'il y avait une corrélation entre ces flux d'IRD en Atlantique Nord, au milieu de l'Atlantique Nord, et l'abondance, en fait, de foraminifères polaires. Donc, il a compris qu'il y avait une corrélation entre la température, même si la corrélation ici n'est pas complètement évidente, mais on a quand même on voit que les maxima d'abondance de foraminifères très froids, en particulier cette espèce très froide, il était possible de voir qu'il y avait une certaine correspondance entre les flux d'iceberg et les températures, avec une augmentation des foraminifères froids. Donc, si on faisait une échelle de température, il faudrait inverser l'échelle. Donc, ce que Heinrich a compris, c'était le fait qu'il y a eu, pendant la glaciation, plusieurs événements de débâcle de ces calottes de glace qui entouraient, dont une dernière qui a eu lieu pendant la transition post-glaciaire, que l'on appelle H1. Alors, d'autres chercheurs sont venus compléter le tableau, en particulier en regardant des détails, en mesurant par exemple l'épaisseur de cette couche d'IRD correspondant au H1. Ici, il s'agit d'une carte qui vous présente les épaisseurs prélevées dans différentes carottes au niveau de l'Atlantique Nord. Ce que l'on voit très clairement, c'est que l'épaisseur va jusqu'à carrément 50 cm pour les plus grandes, et diminue d'ouest en est et du nord au sud quand on regarde en fait ces courbes d'iso-épaisseur de la couche d'IRD correspondant à l'événement appelé Heinrich 1, H1. Donc il est très clair quand on regarde ce diagramme que le phénomène, la source en fait de ces IRD provient en fait de la calotte Laurentide via la mer du Labrador. Donc c'est quelque chose qui est relativement facile de comprendre. Les autres couches de Heinrich plus anciennes ont aussi été cartographiées et elles proviennent pour la plupart toutes en fait. Elles montrent exactement le même type de gradient d'épaisseur entre la mer du Labrador et le centre de l'Atlantique. Donc on s'attend à avoir une source de ces débris rocheux et donc de ces armadas d'icebergs qui provenaient de la calotte Laurentide. Alors il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés de traçage minéralogique et isotopique des roches sources de ces IRD. En particulier, bon, de nombreux auteurs ont fait des mesures directement dans les sédiments, ont prélevé les différents grains d'IRD, ont fait des études minéralogiques, en particulier en regardant les quartz, qui étaient plus ou moins teintés avec des oxydes de fer. Il y a beaucoup d'études minéralogiques beaucoup plus précises, mais il y a des études isotopiques aussi, néodyme, isotope du strontium, qui ont permis en fait de cartographier et d'identifier et de travailler en fait sur la signature de ces différentes couches d'Heinrich et de montrer en fait que l'essentiel correspondait à des roches du bouclier canadien en baie d'Hudson. Donc c'est la logique voulait cela aussi. On a des iso-épaisseurs qui indiquent une source venant de la mer du Labrador, et on comprend avec ces traçages minéralogiques et isotopiques d'où viennent ces roches. Il y a d'autres mesures qui ont été faites, notamment des mesures directes des âges argon-argon des minéraux qui sont transportés par les icebergs directement dans les sédiments océaniques atlantiques, et ces âges en fait correspondent à des roches qui sont situées au nord-ouest de la baie d'Hudson, dans ce qu'on appelle la province de Churchill, avec des âges qui correspondent à peu près vers 1,8 milliards d'années, avec donc une source en fait de ces débris glaciaires qui sont maintenant bien caractérisés. Il y a d'autres évidences encore, d'autres traceurs organiques qui ont pu être utilisés, qui confirment tous ces indicateurs montrent en fait que la provenance principale de ces icebergs qui ont inondé l'Atlantique Nord pendant cette période de Heinrich I venait de cette zone et donc de la calotte Laurentide. Il y a d'autres traceurs, je vous en ai parlé, le Delta O18. Il est possible en fait de tracer l'anomalie du Delta O18 dans les foraminifères planctoniques de surface et de faire des cartographies en fait du Delta O18. En faisant cela, il est possible de montrer en fait qu'on a une anomalie en fait du Delta O18 avec des qui montre en fait un flux venant effectivement de la mer du Labrador. Ici, c'est une compilation en fait de l'anomalie isotopique en provenance de cette calotte Laurentide pour la période du H1 dans différents sédiments qui sont représentés ici. Donc on a effectivement possibilité d'avoir une mesure semi-quantitative de la baisse de salinité avec ces mesures du delta O18 sur les foraminifères. Donc globalement, le phénomène en fait, de Heinrich, en particulier pendant cette période Heinrich 1, c'était une débâcle, un flux très important d'icebergs en provenance de la calotte Laurentide, avec un flux d'icebergs qui s'est propagé sur tout l'Atlantique Nord, que l'on retrouve dans le sédiment sous la forme de d'IRD, de ces fameux débris transportés par les glaces, mélangés avec le sédiment normal, avec une composition carbonatée, essentiellement des foraminifères. Et donc ces petits cailloux que l'on va pouvoir retrouver étaient accompagnés aussi de la glace qui elle-même a eu un impact, en fait. Il y a eu fonte de ces icebergs qui ont donc eu un impact important sur l'hydrologie de surface et sur la salinité, ce qui a eu un impact obligatoire, en fait, sur la circulation thermohaline, cette circulation méridienne atlantique, AMOC, qui a été impacté et qui a eu donc comme conséquence de refroidir transitoirement le climat pendant cette période. Alors, je pense que je vais arrêter là pour cette semaine. Dans le prochain cours, en fait, on va aller plus dans les détails. En particulier, on va regarder ce qui s'est passé pendant cette période et quel est le mécanisme, en fait, en considérant la modélisation pour essayer de comprendre l'impact de ces icebergs, du flux des fleuves et de voir s'il y a correspondance avec la modélisation, cette modélisation étant aussi la même que celle qui est utilisée pour faire les projections du prochain siècle. Mais donc, on va voir qu'en fait, il y a des complications qui vont intervenir, mais qui, au premier ordre, en fait, nous permettent de comprendre ce phénomène et cette période transitoire de la déglaciation. Voilà, je vous remercie de votre attention.